VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Les États-Unis ont annoncé dans la nuit du mercredi à jeudi qu'ils suspendaient leur service ordinaire de délivrance de visa dans de nombreux pays en raison de la pandémie de coronavirus. Les consulats américains ont donc annulé tous les rendez-vous ordinaires en vue de la délivrance de ces visas dans la plupart des pays du monde, a indiqué le département d'État dans un communiqué. La diplomatie américaine n'a pas précisé quels pays étaient concernés, invitant à consulter le site internet de ses ambassades. Depuis hier, la frontière entre les États-Unis et le Canada est fermée pour une période de 30 jours du fait de la pandémie du COVID-19, décision du président Donald Trump qui a cependant précisé que la mesure ne concerne que les déplacements non essentiels. Les échanges commerciaux ne seront pas touché, a-t-il indiqué. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à Montréal notre confrère Maxwell Luanga.
A priori, du moment où les mesures canadiennes permettent encore aussi aux citoyens américains de pouvoir entrer au Canada, à l'exception des autres nationalités, notamment européennes et autres, sans doute avec moins de satisfaction qu'on prendrait le fait que les Canadiens ne puissent pas faire le chemin inverse. Mais je crois qu'au niveau des transports de marchandises, donc d'une manière générale au niveau de l'économie, vu que les contacts ne sont pas coupés et que les transporteurs canadiens peuvent toujours aller aux États-Unis, ne serait-ce que sur ce point-là, on comprend la décision américaine, d'autant que c'est aussi pour protéger la population donc des États-Unis.
Quelles sont les mesures prises au niveau du Canada pour contrer cette pandémie du coronavirus?
Au-delà des consignes basiques qui sont recommandées à tout le monde, à savoir se laver les mains régulièrement, d'éviter le contact en milieu public avec d'autres personnes, de se tenir à une certaine distance, ce qu'on conseille aux habitants. Quand ils n'ont pas des obligations, donc pour des tâches non essentielles, on leur conseille de rester à la maison. C'est un peu les mêmes consignes qui sont données à travers le monde. Donc voilà.
Ici aux États-Unis, on a vu les gens se précipiter dans les magasins pour faire des réserves à l'annonce de la présence du coronavirus ici. Qu'en est-il du Canada?
Bon, au niveau du Canada, surtout au courant de la semaine passée, on avait senti une fébrilité. Effectivement, beaucoup de gens se sont déversés dans les magasins pour dévaliser notamment des produits comme des packs d'eau, les produits alimentaires comme des pâtes alimentaires et aussi les papiers toilettes. Et les autorités ont dû monter au créneau pour rassurer la population comme quoi il n'y aura pas de pénurie et que les gens se ressaisissent et qu'ils ne fassent des achats que des choses essentielles dont ils ont besoin. Mais pour le reste, il n'y aura pas de pénurie et on pourra être en mesure d'avoir tout ce qu'on veut en temps voulu. Donc, c'était aussi pour permettre à ce qu'il n'y ait pas que beaucoup de gens n'aillent pas se rencontrer dans les centres commerciaux et qu'on se contamine à une grande échelle. Et je crois que le message est passé. Au courant de cette semaine-là, on ne sent plus de fébrilité de ce côté-là. Et c'est un peu calme dans les magasins de grande surface.
Maxwell Luanga, journaliste à Montréal, au Canada. Selon une première estimation de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, publiée hier mercredi, la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner une hausse du chômage dans le monde, touchant près de 25 millions d'emplois dans le scénario le plus pessimiste. L'OIT appelle à prendre des mesures urgentes pour atténuer son impact. Eric Manirakiza.
Le rapport préliminaire de l'OIT se base sur différents scénarios. Il indique que la pandémie pourrait entraîner une hausse du chômage au niveau mondial, s'étalant entre 5,3 millions selon la projection la plus optimiste et 24,7 millions dans l'hypothèse la plus pessimiste. Cette agence de l'ONU estime que l'impact pourrait être significativement plus faible si une réponse coordonnée à l'échelle internationale se met en place pour soutenir l'économie et l'emploi, comme lors de la crise financière de 2008-2009. Ce rapport insiste sur la nécessité de mesures de grande envergure pour protéger les travailleurs, relancer l'économie et soutenir les emplois. La baisse du nombre d'emplois va aussi entraîner des pertes massives en matière de revenus, a fait valoir l'OIT. Entre les pertes réelles et le manque à gagner, elles pourraient se situer entre 860 et 3 400 milliards de dollars d'ici la fin 2020, selon la fourchette d'estimation de l'étude. Il ne s'agit plus seulement d'une crise sanitaire mondiale, C'est aussi une crise grave en matière d'emploi ainsi qu'une crise économique majeure, a affirmé le directeur général de l'OIT, Guy Reider. L'OIT met en garde contre le fait que certaines catégories de personnes risquent d'être touchées par la crise de l'emploi de manière disproportionnée, ce qui pourrait accroître les inégalités. Il s'agit notamment des personnes occupant des emplois peu rémunérés et moins bien protégés, en particulier les jeunes, les travailleurs plus âgés, les femmes et les migrants.
Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a annoncé que les mesures de confinement prises depuis une semaine en Italie, pays d'Europe le plus durement touché par la pandémie, seraient prolongées à leur échéance le 3 avril. Les mesures que nous avons prises, tant celles qui a entraîné la fermeture d'une grande partie des entreprises et des activités individuelles dans le pays, que celles concernant l'école, ne peuvent être que prolongées à leur échéance, a déclaré le Premier ministre dans le quotidien El Corriere della Sera de ce jeudi. Le président du Conseil européen et celui du Parlement ont salué aujourd'hui le plan d'urgence présenté dans la nuit par la Banque centrale européenne, la BCE, contre les répercussions du coronavirus sur l'économie. La Banque centrale européenne a annoncé mercredi soir un plan d'urgence de 750 milliards d'euros très attendu par les marchés, destiné à des rachats de dettes publiques et privées pour tenter de contenir les répercussions sur l'économie de la pandémie du coronavirus. Et les autorités russes ont annoncé jeudi le premier décès dans le pays d'un malade souffrant du COVID-19, une femme âgée, sur 147 cas établis, le Premier ministre affirmant pour sa part qu'il n'y avait aucune raison de paniquer. La patiente âgée, décédée dans un hôpital de Moscou pour maladie infectieuse, avait plusieurs maladies chroniques, a indiqué le centre de gestion de l'épidémie de coronavirus de la capitale russe sur son compte Telegram.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une nouvelle du continent, l'ONG Service International pour les droits de l'homme, ISH, a indiqué jeudi avoir déposé une plainte contre le Burundi auprès du comité de l'ONU contre la torture au nom de 4 avocats burundais, les avocats Dieudonné Bachiarigize, Armel Niyongere, Vital Nshimirimana et Lambert Nigarura ont œuvré à répertorier les cas de torture, de disparition forcée et de détention arbitraire dans le pays, y compris pendant les manifestations de 2015 contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, selon l'ISH. La plainte appelle le Burundi à, entre autres, lever les sanctions contre les 4 avocats, leur présenter des excuses publiques et apporter réparation, ainsi que de s'abstenir de toute représailles ou intimidation contre les individus qui coopèrent avec les organes et mécanismes internationaux des droits humains. La coalition internationale anti-djihadiste amenée par Washington repositionne ses troupes en Irak, avec notamment le départ d'un petit nombre de soldats du pays. L'opération a commencé il y a 2 jours. Eddy Sango.
Jusqu'à hier dans la soirée, 300 soldats de la coalition devaient quitter la base d'Al-Qaïm sur la frontière avec la Syrie, selon un de ses responsables. Le colonel américain Miles Kaggins, porte-parole de la coalition à Bagdad, a fait savoir que les militaires des dizaines d'États membres de la coalition seraient déployés sur des bases peu importantes. Il laisse les troupes irakiennes aux positions clés. Des responsables de la coalition démontent tout lien entre ces redéploiements et la multiplication des attaques à la roquette qui ont tué la semaine dernière 3 Américains et une soldate britannique. En janvier dernier, le Parlement irakien a voté en faveur du départ des troupes étrangères d'Irak, dont les quelques 5200 soldats américains. Un responsable américain qui a également requis l'anonymat a lui affirmé que 3 bases en Irak seraient évacuées par les troupes de la coalition et l'ensemble de leur personnel relocalisé. Outre Al-Qaïm, les bases d'Al-Qayara et K1 à Kirkuk dans le nord seront entièrement restituées aux Irakiens d'ici fin avril.
Et puis l'Afghanistan, Washington juge les échanges de prisonniers urgents en raison du coronavirus. L'émissaire américain a déploré sur Twitter qu'aucun prisonnier n'a été libéré malgré l'engagement exprimé en ce sens par les deux parties. Prochain journal dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.